France Culture, 7h-9h, les matins d'été, Chloé Cambrelin.
La seule possibilité de répondre aux peurs de nos concitoyens, c'est de leur donner un monde à voir. C'était hier, vers la fin de l'interview d'Emmanuel Macron par Gilles Boulot et Léa Salamé, comme une réponse du chef de l'État à lui-même, puisqu'il avait commencé par dire « Notre pays, au fond, a peur ». Il faut dire que le coronavirus est toujours là, le port du masque dans les lieux clos devrait devenir obligatoire, dire aussi que la crise économique s'annonce terrible, le président reprend à son compte les prévisions selon lesquelles jusqu'à 1 million d'emplois pourraient être détruits à l'horizon du printemps. Alors quel monde à voir, quel nouveau chemin, puisque c'est cela qui nous est promis. Comment propose-t-on une vision, un récit, quand le futur est aussi incertain et la confiance à ce point érodée? Le nouveau chemin ressemble à un itinéraire bis, lit-on dans la presse ce matin. Bonjour Yves-Charles Zarqa.
Bonjour.
Et merci beaucoup d'être avec nous, philosophe, professeur émérite à l'Université Paris-Sorbonne, fondateur
non.
de Sorbonne Université.
Non. Non. Université de Paris.
De Paris, voilà, ça a changé. Fondateur de la revue Cité, vous avez dirigé l'ouvrage « La France en récit » au pluriel, publié mi-juin aux presses universitaires de France. Une soixantaine de contributeurs, dont les analyses sur des thèmes très variés, ont pour but de montrer que notre identité est constituée d'une pluralité de points de vue, de récits, et non pas d'un seul discours. Avec nous également Damon Mayafre, bonjour.
Bonjour.
Historien, linguiste, spécialiste de l'analyse du discours politique, chercheur CNRS à Nice, votre ouvrage « Macron par l'intelligence artificielle, ses discours décryptés par la machine » est à paraître aux éditions de l'Aube, publication décalée pour tenir compte de la crise du coronavirus. Nous en parlerons. Vous avez, vous aussi, Yves-Charles Zarqa, ajouté un avant-propos et une postface à l'ouvrage que vous avez dirigé pour prendre en compte cet événement. Dans la postface, vous écrivez que durant cette crise, le récit du pouvoir est devenu incohérent et contradictoire. Vous a-t-il semblé hier dans la bouche d'Emmanuel Macron plus cohérent et moins contradictoire ?
Écoutez, ce que vous dites là est effectivement ce que j'ai écrit dans la postface. Il y a une discordance, si vous voulez, entre les actes qui ont été réalisés, par exemple le chômage partiel, qui est une façon de prendre en considération immédiatement la gravité de la situation en vue d'empêcher une crise terrible, économique, sociale, etc. Et le discours qui était tenu. Et évidemment, il suffit simplement de constater ce que tout le monde peut faire sans la moindre difficulté. Qu'on est passé d'un discours où le masque ne sert à rien, vous rappelez la parole du gouvernement, mais ça ne sert à rien, donc il ne faut pas en porter. Ah, aujourd'hui, le masque est obligatoire. Donc il y a eu effectivement... des atermoiements du discours du pouvoir sur le coronavirus qui tiennent d'une part à l'incertitude de l'affaire et deuxièmement au fait de masquer un certain nombre de défauts et d'incapacités. Oui, il y a eu un discours, je peux même dire un récit inventé sur le fait et qui s'est montré assez chaotique et incohérent.
Et hier encore.
C'est une autre affaire. On voit cette affaire du récit. Le récit, je prends le cas de Macron, du discours du président Macron hier. Quand il a été élu sur un certain récit. Qu'est-ce que c'était ce récit? C'est la différence entre le monde ancien et le monde nouveau.
Oui,
le nouveau monde.
Le nouveau monde.
Deuxièmement, sur le « en même temps ». Ni gauche ni droite, en même temps l'une et l'autre. Et aussi sur une formule qu'on lui a soufflée, qu'il a reprise, sur les premiers de cordée. Bon, ce discours-là, qui a fonctionné, enfin le premier de cordée c'était ensuite, mais sur le nouveau monde, ancien monde, en même temps, etc., qui a fonctionné au moment de l'élection... Et c'est le risque du récit. Et c'est avéré, au moment de la pratique du pouvoir, invalide. C'est-à-dire, on se fait élire. Personne ne peut se faire... C'est un cas particulier, parce que la problématique du livre est beaucoup plus
grande. Bien sûr.
Mais un cas particulier, le récit ne peut pas tenir par lui-même. Si les faits, ou la réalité, ou les convictions ne le suivent pas, et bien le récit s'effondre. Et le problème de Macron hier, c'était de trouver comment dire, un amendement à son récit, de manière à le rendre à nouveau crédible. C'est, je ne change pas de cap, mais je change de chemin. Mmh. Je change d'itinéraire. Bon, la question est, effectivement, est-ce que le chemin va changer? Est-ce que les principes initiaux vont être mis en œuvre par ce nouveau chemin ou non? Bon, donc, il y a toujours nécessairement un récit qui doit accompagner des actes, qui doit accompagner des réformes.
C'est l'intrigue, c'est ce que vous expliquez aussi.
Bien entendu, sinon, des actes qui ne seraient pas accompagnés par un récit qui les met en perspective et leur donne un sens, apparaîtraient comme décousus et insignifiants en eux-mêmes. Et on n'en verrait pas la cohérence. C'est pour ça qu'il y a toujours nécessité d'accompagner des actes par une façon de voir, c'est-à-dire un récit, c'est-à-dire une mise en perspective temporelle, historique. Alors évidemment, là, c'est un contexte très limité. Mais bon, il y a des récits beaucoup plus importants qui ont duré des siècles et qui ont marqué profondément la France. C'était notre objet. Mais là, en particulier, on voit comment le récit joue un rôle tout à fait majeur. Et j'ajoute que le récit ne se contente pas d'accompagner des actes, mais peut produire les actes.
Oui.
Parce qu'il doit produire la conviction. Mmh. Par exemple, permettre de mobiliser. Et donc, c'est pour ça que la question du récit est importante et en même temps risquée, parce que sa vacuité peut aussi se révéler par rapport à la réalité elle-même.
Damon Mayafre, vous qui passez au crible les discours d'Emmanuel Macron depuis 3 ans, là c'était donc en l'occurrence une interview, mais qu'avez-vous vu de ce nouveau chemin dans les mots, dans le contenu de ce qui a été proposé hier?
Alors, j'ai pas bien entendu la question parce qu'on a été déconnecté, mais j'ai écouté le discours et
oui. J'avoue
que j'ai pas été très surpris par ce discours qui s'inscrit, il me semble, dans la rhétorique de Macron depuis non seulement 2017, mais même depuis 2016. C'est-à-dire que c'est toujours une rhétorique du processus qui montre le mouvement, qui annonce l'action, mais qui ne dit jamais tout à fait la destination. Donc on est en marche, comme on le sait, là il y a un nouveau chemin, vous voyez que la métaphore est toujours la même, du mouvement, mais on ne sait pas exactement où on va. Et c'est vrai que la difficulté, comme cela vient d'être dit, pour Macron, c'est de donner un deuxième souffle lorsqu'il use au fond exactement... des mêmes procédés. C'est-à-dire la question, par exemple, de la réinvention, du renouveau, fondation. Hier, il a dit « rebâtir à nouveau », vous voyez un peu la redondance, c'est quelque chose qu'il a utilisé pour se faire élire déjà. Et donc, 2 ans et demi, 3 ans après son élection, c'est forcément un peu difficile à répéter.
Alors, Damon Mayafre, on espère que la liaison va fonctionner. Vous êtes avec nous depuis Nice. L'un des buts de votre ouvrage, Yves-Charles Zarka, est de montrer donc l'identité de la France est nécessairement en tension puisqu'il existe plusieurs récits des mêmes événements. Là, c'est particulièrement le cas concernant cet événement qui est la crise du coronavirus, puisque chacun l'a vécu, a vécu cette expérience commune de façon très individuelle. Comment on réagrège tout ça? Comment est-ce que l'on crée de la cohésion? Hier, beaucoup, Emmanuel Macron a insisté sur l'unité de la nation, etc. Mais justement, c'est très éclaté en ce moment.
Oui, à quoi on a assisté? Je reviendrai sur le propos de l'ouvrage, parce que c'est pas celui-là, mais soit qu'on assistait avec le coronavirus et le Covid-19, c'est à une démultiplication, à l'infini des récits. Récits de vie particuliers, récits de désœuvrement, récits d'angoisse, récits de la mort des autres. Nous n'avions dans les journaux télévisés ou à la radio que ça. C'est-à-dire, chacun se raconte ou raconte la manière dont il a vécu l'événement. À côté de ces discours multiples de récits de soi, il y avait un discours, disons, guillemets, officiel, un discours du pouvoir, qui était totalement à côté, parce qu'il se définissait en termes de chiffres, nombre d'affectés, nombre de morts, nombre de morts dans les EHPAD, etc., etc. Et un discours déconnecté de celui des gens, dans la mesure où Comme je le disais tout à l'heure, ça a été un discours incoatif, incohérent et même contradictoire souvent. Et donc, le moment, le coronavirus a été, au point de vue qui nous occupe, c'est-à-dire de la manière dont les choses sont narrées et racontées, un moment d'explosion tout à fait extraordinaire, parce que précisément chacun souhaitait dire, que ce soit publiquement sous les formes de médias habituels, soit sur Internet, soit simplement dans des relations privées, la manière dont il avait vécu les choses. Et donc, parce que ce qui a été vécu est tout à fait extraordinaire. Je veux dire, au sens étymologique, hors de l'ordinaire. On a vécu quelque chose qui est incroyable, mais stupéfiant, inimaginable. Imaginez une seconde. Qui aurait pu prévoir que l'économie du monde s'arrêterait? Personne. Même dans un romancier de science-fiction, il aurait hésité à inventer un truc pareil. Parce que c'est... Bon, mais là, elle s'est arrêtée. Ce qui apparaissait auparavant comme absolument nécessaire, inchangeable, que ce soit un ordre ou un désordre d'ailleurs, qu'on pouvait pas maîtriser, s'est arrêté, s'est modifié. On s'est trouvé dans une situation, et on se trouve encore d'une certaine manière, dans une situation totalement imprévisible, imprévue et imprévisible, et totalement nouvelle. Et donc, tout cela a provoqué, en plus à cause du confinement et de la modification des existences particulières, un besoin de dire ce qui était vécu, un besoin de dire. Et donc, je disais, il y a la déconnexion entre le récit du pouvoir d'un côté, et le récit des gens. Cette déconnexion est évidemment nécessaire, c'est pas le même registre, mais la question, c'est qu'on s'est aperçu que le discours du pouvoir avait présenté un caractère souvent incohérent.
Damon Mayafre, je reviens sur cette question de l'unité. C'est la nation tout entière qui a réussi, à dire Emmanuel Macron, en évoquant les efforts des uns des autres qui ont permis, pour le moment du moins, de sortir de la crise sanitaire. On sent bien qu'il y a cette volonté d'unité, et en même temps on sent bien aussi à quel point il est compliqué pour le chef de l'État de lui donner corps, d'en faire une réalité.
Oui, c'est une difficulté du discours de Macron depuis le départ, c'est que ça balance régulièrement entre un égotisme, une mise en avant de sa personne et une volonté de faire nation. Et constamment, on voit dans le discours une bataille entre le jeu qu'il affiche et le nous. Qu'il affiche aussi à peu près dans des proportions égales. Et donc on sent là depuis quelques mois le tournant qu'il essaye de marquer dans son quinquennat, et de faire un peu plus nation et un peu moins aventure personnelle comme c'était le cas au départ. Alors pour ça, il a des références. Hier, il s'est par exemple appuyé beaucoup sur le discours de Gaulle, cette volonté donc de réconcilier les Français, de faire union, de faire presque union sacrée. L'accès du coronavirus a évidemment favorisé ce tournant, puisque c'était un moyen dans ses discours de guerre, précisément, de faire référence non seulement à De Gaulle, mais à la résistance, à la guerre, au front, à l'union sacrée. Alors, est-ce que ça imprime chez les Français? C'est peut-être pas évident, mais en tout cas, dans le discours, effectivement, il y a presque un an, depuis la crise des Gilets jaunes aussi, cette volonté d'apparaître un peu moins isolé, et de renouer en quelque sorte avec ce grand récit national dont on parlait, qui nécessite évidemment une union, une réconciliation avec tous.
Et Charles Arca là-dessus.
Oui, on a toujours ce problème. Là, c'est un contexte particulier qui est celui d'aujourd'hui. Mais on a toujours l'unité de la France, ça n'a jamais été, jamais, depuis l'origine. Ça n'a jamais été une unité, univoque.
Oui.
La division, et je dois vous dire que les divisions actuelles sont peu de choses par rapport aux divisions passées. Je pourrais revenir tout à l'heure là-dessus. La France a toujours été, comment dire, l'unité de la France a été travaillée par le conflit. Elle a été travaillée par la division. Mais ce qui ne veut pas dire que la division soit un écroulement de l'unité, mais c'est que cette unité est faite, elle est complexe, elle n'est pas simple. Elle est faite de conflits, de discours, de récits en conflit les uns avec les autres. Ce qui se passe actuellement est également le cas. Vous avez une multiplicité de discours qui sont ceux des partis ou qui sont ceux de, et qui s'opposent les uns aux autres, qui travaillent un mouvement qui est un mouvement qui est un mouvement un. Et donc il n'y a pas d'opposition entre d'un côté la multiplicité, voire la conflictualité des récits, sous les récits, les intérêts, les objectifs, etc. Mmh. Et de l'autre côté, la perspective que, à travers ces conflits, se construit l'identité même de la France. C'est ça le cœur. C'est aussi l'un des cœurs de notre travail. Poser la question de l'identité ou de l'unité, ça n'est pas dire il y a l'unité d'un côté, il y a la division de l'autre. C'est faux. Ça marche pas comme ça. La France a toujours été divisée. La légende selon laquelle la France, on avait auparavant un discours unique, un grand discours qui rassemblait tout le monde, ça n'a jamais existé. Ça n'a jamais existé. Donc on pourra peut-être revenir là-dessus tout à l'heure. Mais la France a toujours... Bruno Dumézil qui a fait l'article dans l'ouvrage sur les premiers récits des origines de la France, il montre que dès le départ... il y avait conflit dans les interprétations.
Et en même temps, Damon Maillafre, on fait un peu les allers-retours, mais pour revenir encore à ce que disait hier Emmanuel Macron, qui parle de ces divisions, il dit « nos divisions, nous ne savons pas les régler par temps calme », autrement dit, la crise pourrait avoir de ce point de vue des vertus. Ça, c'est un discours qui n'étonne pas non plus dans la bouche d'un président qui promettait révolution, transformation...
Oui, alors il faut accorder à Macron une tentative nouvelle de peut-être réconcilier au moins les oppositions. Vous avez remarqué que hier il cite Mélenchon en l'avouant en parlant des premiers de corvée. Là où il a parlé des premiers de cordée, dès 2017, Mélenchon qui reprend la formule premier de cordée le lendemain de l'interview de Macron en disant ben moi je pense plutôt premier de cordée. Et là, vous voyez, Macron fait un pas en quelque sorte vers et un tournant social, pourrait-on dire, en reprenant au moins dans les mots l'expression de Mélenchon. De la même manière, on a vu, si ce n'est une main tendue à Marine Le Pen, en tout cas un discours qui va vers un peu plus de souveraineté, d'indépendance nationale ou des termes comme ça qui étaient un peu tabous dans la bouche de Macron et qui désormais s'exprime. Donc je ne sais pas jusqu'où ira cette volonté. Visiblement le nouveau gouvernement reste à peu près sur les bases de l'ancien, mais il y a en tout cas dans le vocabulaire utilisé, dans les mots utilisés, une tentative de se réapproprier un peu le discours des autres et donc en ce sens quelque part faire un peu plus union nationale.
Et en même temps, voilà, on y revient, et Charles Arca, le problème c'est les mots et c'est les actes après.
C'est les mots et c'est les actes, et de toute façon, il ne suffit pas de reprendre les mots pour réconcilier. Parce que vous pensez bien que ce n'est pas le fait qu'il ait repris l'expression premier de corvée à Mélenchon qui va accorder Mélenchon et Macron qui en serait...
Non, je pense pas que c'est ce que vous voulez dire.
Je ne parle pas de notre interlocuteur, je parle de... Et ça n'est pas parce qu'il a donné le sentiment de souligner la question de l'indépendance nationale ou la souveraineté qui va accorder Marine Le Pen. Et donc, malgré... ces jeux de discours, les divisions, elles demeurent, évidemment.
Et un dernier point, juste avant le journal, vous avez aussi, enfin, il a insisté aussi hier sur la crise de confiance. Vous vous dites, Yves-Charles Arca, que pour recréer de la confiance, il faut produire un discours crédible que l'on puisse s'approprier.
Absolument.
De ce point de vue, comment vous avez entendu ce qui a été dit hier?
Je crois que notre interlocuteur tout à l'heure avait tout à fait raison. Il a du mal. Il avait donné un récit initial. Donc il ne peut pas inventer un deuxième récit qui serait en désaccord avec le premier. Pourtant, il doit se relancer, il doit inventer quelque chose. D'où la différence entre le cap et le chemin. Mais c'est l'expression de la difficulté qu'il a à rendre à nouveau crédible le récit qu'il a fait lire.
Yves Chalzarka, La France en récit, l'ouvrage que vous dirigez, publié aux presses universitaires de France. Damon Mayafre, Macron par l'intelligence artificielle, ses discours décryptés par la machine, apparaître aux éditions de l'Aube. On vous retrouve tous les deux à 8h20 pour poursuivre cette discussion. Avant cela, il y aura le billet politique et le journal qui arrive.
France Culture, les matins d'été, Chloé Cambrelin.
Et l'on poursuit la discussion entamée avant 8h à partir de cette interview d'Emmanuel Macron avec vous, Yves-Charles Zarka, philosophe, fondateur de la revue Cité. Vous avez dirigé l'ouvrage « La France en récit » au pluriel, publié mi-juin aux presses universitaires de France. Et Damon Mayafre, historien, linguiste, spécialiste de l'analyse du discours politique, chercheur au CNRS à Nice. Votre ouvrage « Macron par l'intelligence artificielle, ses discours décryptés par la machine » est à paraître aux éditions de l'Aube. D'abord, peut-être avec vous, Damon Mayafre, rapidement, cet exercice de contrition dont nous parlait à l'instant Stéphane Robert. Est-ce que vous aussi, vous l'avez entendu hier?
Alors, je l'ai entendu, mais il m'a pas surpris, puisque effectivement, il avait entamé, comme ça a été dit dans le billet, au moment des Gilets jaunes, c'est-à-dire qui décembre 2018, puis au cours de l'année 2019, et aujourd'hui. C'est un exercice, du reste, qui est très classique sous la Ve République. La plupart des présidents de la République, sur 7 ans ou sur 5 ans, ont l'occasion de faire cette contrition, ce mea culpa, cette volonté de se réhabiliter. Nicolas Sarkozy, même si c'était pas sous une forme de contrition, d'excuse, a aussi beaucoup dit qu'il allait changer.
J'ai changé, oui.
J'ai changé, je crois, 7 fois au cours de son quinquennat. Donc voilà, c'est assez classique. Juste peut-être un petit mot sur, parce qu'on a beaucoup parlé de la forme du discours, qui concerne le fond du discours et de hier. Je crois que ce qui ressortait, c'est peut-être deux contradictions fondamentales, et les journalistes ont insisté un peu là-dessus, l'air de rien, sans mettre en difficulté le président, mais je trouvais que c'était assez net. D'un côté, d'un point de vue politique, Macron affirme vouloir changer, révolutionner la vie politique. Enfin, il a été élu sur cette idée-là. Et on l'a vu à nouveau résister à l'idée d'un changement de République. Donc il est enfermé dans les règles du jeu de la Ve République, tout en prétendant, en voulant changer la donne. Et là, on sent qu'il est dans une sorte d'impasse politique. Alors, il a laissé un peu la porte entrouverte à des changements constitutionnels, mais ça reste très timide et je pense qu'il aura du mal à sortir de cette contradiction, révolutionner tout en gardant l'existant. Ça, c'est un peu compliqué politiquement. Et puis l'autre contradiction est évidemment sur le volet économique, puisque là aussi, il y a l'idée de faire tabula rasa, peut-être du système existant, de changer, peut-être faire une politique plus keynésienne, faire une politique écologique différente. Mais on voit une volonté de garder l'économie de marché, une sorte de libéralisme ou de libre concurrence au sein du marché européen. Et là aussi, il me semble que au-delà des mots, on en parlait précédemment, c'est la mise en action de cette révolution économique qu'il nous promet qui va être difficile en gardant, je le répète, les règles du jeu ici économique, la loi du marché qu'il continue de chérir en quelque sorte.
Oui, on reste dans le cadre existant. Yves-Charles Zarka, vous avez signé dans ce livre La France en récit le chapitre, le texte sur les intellectuels qui est titré intellectuel. La fin d'un mythe français, il y a un point d'interrogation. On parlait de la parole politique, je voudrais quand même que l'on parle aussi de cette production intellectuelle qu'il y a eu pendant cette crise, qu'il y a en ce moment. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette production? Quel est le rôle pour les intellectuels dans ce moment que nous vivons?
Juste un mot pour dire que le texte sur les intellectuels s'inscrit dans la première partie de l'ouvrage qui porte sur la sensibilité, le goût et l'esprit, les autres portent sur la politique, la guerre des mémoires, etc. Simplement pour vous situer. Écoutez, franchement, la production intellectuelle pendant ce coronavirus, elle n'a pas été extraordinaire. Je veux dire, il y a tout le monde a été surpris, tout le monde a été pris de court, et il n'y avait pas lieu. Enfin, ça donnait peu prise à un discours intellectuel qui s'opposerait à quoi ? Au coronavirus ? Non, mais c'était pas possible. Et donc, bon, je pense que ça n'est pas comme une crise sociale ou une des qui arriverait. Donc, le statut même de ce que qu'on a vécu et qu'on vit, une crise sanitaire totalement nouvelle qui nous vient de l'extérieur et qui se répand partout dans le monde, ça ne suscitait pas une révolte intellectuelle pour... C'est encore que, on peut dénoncer, évidemment.
Non, mais puisque l'on parle de nouveaux chemins, de se projeter, oui. De nouveaux mondes à proposer, on peut aussi attendre ça, cette réflexion-là, des intellectuels,
alors,
non ?
Oui, alors, mon propos, justement, porte sur le changement de statut de l'intellectuel. L'intellectuel, c'est une figure française. Pas seulement depuis l'affaire Zola. L'affaire Dreyfus et le Jacques Zola. Mais même depuis, évidemment, Rousseau et Voltaire, 18e siècle. Donc c'est une figure tout à fait particulière, l'intervention d'un auteur, d'un artiste, d'un scientifique qui prend de l'ampleur à cause de son œuvre et qui intervient dans le public pour dire la vérité, ou ce qui pense être la vérité contre le pouvoir. Cette figure-là, elle s'est maintenue jusqu'à Sartre, et même après Sartre, Foucault, bien que il ait donné une orientation plus locale à l'intellectuel. Ce sont des auteurs considérables, hein, vraiment considérables. Alors il y a à partir de ça, à son époque, Gilles Deleuze avait pratiquement tout dit dans les années 70, il y a un effondrement de la figure de l'intellectuel. Un effondrement, c'est-à-dire il y a une production artificielle de la notoriété. On peut pas dire que l'œuvre de Sartre est artificielle. Elle est pas artificielle. Qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, on est obligé. Il y a une production artificielle qui vient de changements du contexte médiatique et autres. Une production artificielle qui fait que on peut construire des figures de toutes pièces. On peut construire des figures de toutes pièces qui deviennent des figures majeures. Allez dans les rues, demandez quel est le philosophe que vous connaissez, vous allez voir. Vous aurez toujours la même réponse. Vous direz, est-ce que ça correspond à la réalité ? Je vous réponds, moi, non. Ah, je ne suis pas le seul, évidemment. Sinon, ça n'aurait pas grand intérêt. Donc, si vous voulez, le discours intellectuel, c'est devenu un discours provocateur, un discours, malgré les apparences, très lié, très complaisant à l'égard du pouvoir. On n'a jamais vu de révolté, je ne veux pas citer le nom, mais de révolté aussi bien intégré dans l'univers médiatique que... l'un des personnages dont je parle dans le bouquin.
Damon Mayafre, vous parlez, Yves Charles Arcat, dans ce chapitre sur les intellectuels, d'un marketing autour de la production intellectuelle. Damon Mayafre, je voudrais vous demander si vous voyez un marketing dans la production, dans la parole politique, finalement, quand on dit on change la méthode, mais on change pas de cap. Est-ce que on peut considérer qu'on est dans une forme de marketing ?
Oui, je pense. C'est-à-dire qu'il y a les discours sont convenus, sont très travaillés, et, évidemment. Et j'allais vous dire, sont tellement travaillés que aujourd'hui, les algorithmes que on peut mettre au point en intelligence artificielle ou simplement en logométrie, en statistique lexicale, sont capables presque de générer automatiquement des discours qui à s'y méprendre, ressemble à du Macron.
Vous l'avez fait dans votre laboratoire, c'est ça ?
Oui, exactement. Mon ouvrage se termine par le discours que Macron va prononcer fin 2021, début 2022, pour annoncer sa nouvelle candidature. Et c'est un discours qui est généré par le deep learning, par l'intelligence artificielle, et qui est effectivement ressemble à s'y méprendre au discours de Macron. C'est-à-dire qu'il y a aussi bien les tournures syntaxiques du Macron, il y a aussi bien le vocabulaire de Macron, il y a les pauses même de Macron. Et juste pour l'anecdote, c'est un discours qui a été généré il y a quelques semaines, quelques mois, et il n'y avait qu'un seul mot qui me posait problème dans cette génération automatique, c'était le mot écocide. Et vous avez vu que c'est un mot qui revient
finalement,
sur le moment de la scène, et que Macron pourrait très bien utiliser au moment de sa campagne électorale.
Voilà, des discours générés par la machine, on sait pas, ça vous fait réagir, allez-y.
Absolument, c'est très intéressant cette affaire-là, parce que les grands récits, ce sont ceux qu'on ne peut pas générer par la machine. Personne n'aurait pu, avec la machine artificielle que vous voulez, faire le discours du 18 juin du général de Gaulle.
Donc là, on a un problème, ça se confirme.
C'est le dernier grand récit de la France combattante, la France libre. C'est le dernier grand récit qui a eu pris consistance, évidemment, et qui a replacé la France sur la carte du monde. Mais c'est extraordinaire. Ça, vous pouvez pas le prévoir par la machine. La machine peut vous générer des trucs à partir de données multiples que vous avez enregistrées. J'ai travaillé sur l'intelligence artificielle également, et qui vous ressort ce qui résulte de ce qui a été déjà dit. Mais les vrais discours, ceux qui marquent l'histoire, ceux qui ont marqué la France, n'ont rien à voir avec la marginalité. Ne peuvent pas être
par la menace.
Faut conclure.
Je suis tout à fait d'accord. C'est-à-dire que c'est vraiment le triomphe de la forme sur le fond. Et les discours de Macron se prêtent complètement à ce pastiche parce que c'est des discours qui sont plus sur la forme, c'est-à-dire sur ce mouvement, cette volonté de changer les choses, cette superficialité du discours, et non sur l'idéologie même qui est le plus souvent cachée. Du coup, évidemment, l'ordinateur, lui, est capable de reproduire cette forme, là où il serait incapable de reproduire le fond.
Eh bien, nous lirons ça. Merci Damon Mayaf. Donc, Macron parle intelligence artificielle, ses discours décryptés par la machine, avec donc en conclusion ce discours généré par la machine, apparaître bientôt aux éditions de l'Aube. Et merci à vous, Yves-Charles Zarca, La France en récit, ouvrage donc que vous avez dirigé avec plus de 60 contributeurs, publié aux presses universitaires de France. Merci à tous les deux.